Donc bonsoir à vous et bienvenue pour cette soirée Zoom autour du livre de Guillaume Cos, Le pardon ou la victime relevée, qui est publié chez Salvatore en 2019 dans la collection Forum. Ce livre fait suite à la thèse de Guillaume qui s'intitule « Le geste du pardon, parcours philosophique en débat avec Paul Ricoeur » et qui est publié chez Kimé. Il me semble qu'on pourrait dire que les deux titres pris ensemble proposent déjà un nouveau regard sur le pardon. Plus qu'une décision, plus qu'une posture, celui-ci est peut-être avant tout un geste, quelque chose donc de dynamique qui s'inscrit dans une histoire et qui engage le corps et donc tout l'être. Quel est ce geste ? Serait-il justement celui d'être relevé, comme l'indique le titre de l'ouvrage dont nous parlerons ce soir? Et si c'est le cas, on peut noter qu'il appelle l'attention sur la victime, et non d'abord sur le coupable, comme pour indiquer que là peut-être se trouve le point de départ du pardon, du côté de l'attention à celui ou celle qui a été blessée. Merci beaucoup donc de nous aider à réfléchir à cette question du pardon, qui a sans doute pris encore plus d'actualité ces dernières décennies. La libération de la parole à laquelle on assiste ces derniers temps conduit à plus de lucidité sur la violence que la réalité contient et qu'on ne soupçonnait pas toujours. Vient alors la question de ce que nous pouvons faire de cette violence. Et là, nous pouvons rencontrer cette question du pardon. Pour réagir à cet ouvrage, nous avons le plaisir ce soir de recevoir trois invités. Madame Lorraine Angenot, qui est psychologue clinicienne et qui a travaillé aussi à l'hôpital dans des services de cancérologie et de soins palliatifs. Elle est l'auteure d'une thèse sur le pardon réalisée à l'Université de Québec à Montréal. Et elle aborde cette question à partir de l'interrogation « Comment le pardon peut-il guérir ? Comment peut-il délier du mal subi, du mal souffert ?» Donc une approche assez proche de celle de Guillaume, bien que dans un autre champ, une autre spécialité. Prendront également la parole Clarisse Picard, qui enseigne la philosophie au Centre Sèvres et qui a fait sa thèse sur l'enfantement du point de vue de la subjectivité féminine. Elle travaille à une philosophie de la naissance et elle enseigne d'autres choses aussi au Centre Sèvres, notamment la philosophie morale. Et puis, Michel Fédoux interviendra également à partir cette fois-ci d'un abord théologique. Michel Fédoux enseigne au Centre Sèvres depuis de nombreuses années et on peut dire en très gros que son champ de spécialité est triple, la patristique, les pères de l'Église, la théologie dogmatique et puis la théologie écuménique. Ça fait donc trois abords différents, philosophiques, psychologiques et théologiques, pour cette question du pardon qui, de fait, a de multiples résonances. Merci beaucoup aux trois intervenants qui ont accepté de réagir au livre de Guillaume. Mais il me semble que je dois dire aussi un tout petit mot pour vous présenter Guillaume, parce que vous le connaissez peut-être pas forcément tous. Donc, Guillaume enseigne la philosophie au Centre Sèvres. Il est directeur du premier cycle après avoir exercé les fonctions de doyen de la faculté de philo. Mais je dois ajouter que Guillaume se passionne aussi pour d'autres choses, notamment le monde chinois. Le pardon reçoit-il un autre éclairage quand on l'aborde à partir des cultures orientales? Peut-être aurons-nous aussi des éclairages sur cette question. Avant de laisser la parole à Madame Lorraine Angenot, une précision pratique pour les auditeurs. Pour poser vos questions, merci d'utiliser le chat de Zoom. Quand vous promenez votre souris en bas de l'écran, vous trouverez une icône qui s'intitule normalement « Discussion ». Et en cliquant sur cette icône, vous trouverez de quoi écrire un message qui pourra parvenir à tout le monde. Et merci de réserver l'utilisation de ce chat aux questions ou aux réactions à poser aux intervenants. Ces questions ou réactions seront triées et synthétisées par Fumi Miura, qui est une auxiliatrice japonaise et qui est en troisième cycle au Centre Sèvres. Et donc, c'est elle qui reprendra vos questions et qui les transmettra aux intervenants. Voilà. Eh bien, sans plus tarder, il me reste à passer la parole à Lorraine Angenot.
Alors, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien ?
Oui.
Oui. Bonsoir Guillaume. Bonsoir à tous les participants qui sont très nombreux ce soir et je m'en réjouis. À la lecture du livre de Guillaume Cosse, Le pardon ou la victime relevée, je voudrais vous faire part d'une conviction assez profonde, rarement ressentie par ailleurs, c'est que ce livre vaut la lecture pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Je voudrais vous transmettre ce que Paul Valéry appelle un livre qui vaut. Alors, je vous cite hein, ses propos. Un livre vaut à mes yeux par le nombre et la nouveauté des problèmes qu'il crée, qu'il anime ou qu'il ranime dans ma pensée. J'attends de mes lectures qu'elles me produisent de ces remarques, de ces réflexions, de ces arrêts subis qui suspendent le regard, qui illuminent des perspectives et qui réveillent tout à coup notre curiosité profonde. Le livre de Guillaume me semble correspondre tout à fait à cette définition. C'est un livre qui vaut par le nombre et la nouveauté des problèmes qu'il crée et que nous essaierons en tout cas d'éclairer ce soir. Je voudrais vous dire que effectivement, à la fin de l'introduction de Guillaume, Guillaume, vous allez dire, le pardon n'a rien d'un baume apaisant, c'est une arme redoutable, un glaive aussi tranchant qu'un scalpel. Alors la psychologie du pardon, qui est assez récente, qui a connu un engouement récent dans les 20-30 dernières années en Amérique et au Canada, ferait néanmoins plutôt du pardon un baume, ou peut-être plus exactement une manière de métaboliser l'histoire traumatique. Là aussi, le pardon, la psychologie du pardon, la philosophie du pardon, la théologie du pardon aboutissent depuis peu de temps, en réalité, à une forme d'inspiration renouvelée dans la prise en charge des victimes du point de vue de la psychologie. Alors, conclure cette introduction qui pose cette hypothèse de travail, notamment sur la bonté foncière et originaire de l'homme, est bien digne d'un fils de Saint-Ignace. Il me semblait que vous faisiez peut-être référence implicitement, peut-être intentionnellement ou pas, au chevalier de Loyola qui, justement, a pu se convertir finalement une première vie chevaleresque en soldat du Christ. Et puis là aussi, en manifestant dans cette introduction paradoxale que le quotidien de tout homme libre est de discerner, en fait, ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Donc cette introduction, en tout cas, m'a beaucoup parlé en ce sens qu'elle est un tremplin, comme un programme, selon vous, qui jalonnerait peut-être toute vie chrétienne, mais aussi, pourquoi pas, toute vie, tout court. Bien entendu, l'hypothèse de travail qui interpelle particulièrement la psychologue que je suis, c'est la conclusion de votre texte, c'est que tout homme est habité d'une bonté foncière, et faisant du pardon une arme en fait la plus immédiate à saisir pour rendre à chaque partie, le coupable et puis la victime, sa dignité puis sa réintégration dans la communauté humaine. Là aussi, cette bonté est-elle ce qui est le plus facilement évité ? C'est vraiment une hypothèse extrêmement fragile parfois, en tout cas quand on s'occupe des auteurs de violence. Et là, c'est une question que j'entends comme posée aux psychologues. Est-ce qu'on peut vérifier toutes ces hypothèses cliniquement ? Évidemment, nos champs de recherche sont connexes, la philosophie, la psychologie, la théologie, et nous avons besoin les uns des autres pour nous aider à penser, à réfléchir. Le thème du pardon, qui est un thème quand même extrêmement vaste, extrêmement complexe. Là aussi, je voudrais vous dire, plutôt en tant que clinicienne, en tout cas que thérapeute, c'est que nous avons des méthodes de travail différentes pour étudier la question du pardon. Nous devons allier en fait des concepts intellectuels, mais aussi des idées directrices pour la prise en charge thérapeutique, notamment des victimes. La question de la prise en charge des auteurs est beaucoup plus récente, donc j'en parlerai peut-être un petit peu moins, puis je resterai dans le fil de cette idée de la victime relevée. En fait, dans la pratique clinique du psychologue au quotidien, il y a deux défis qui sont un petit peu différents. Premièrement, celui de l'évaluation clinique de ce qui a été souffert, de ce qui a été subi, c'est la question du traumatisme, et puis la question, le défi de la stratégie dans la prise en charge de ce traumatisme. Le pardon est en réalité un thème extrêmement peu traité en psychologie, ou en tout cas il se baladerait un petit peu incognito depuis une trentaine d'années, parce que thérapie... Oui. Où... Attendez, il y a eu quelqu'un qui voulait intervenir peut-être ? Non, je continue. En tout cas, il y a un incognito du pardon, comme dit Guillaume Kissitricker, qui se baladerait un petit peu en thérapie, au sens où une thérapie réussie ressemble à quelque chose qui serait de l'ordre du pardon, sans le nommer, sans le dire. Là aussi, la question du pardon est extrêmement peu traitée chez les psychologues, extrêmement taboue. C'est une notion qui est suspectée d'accointance morale, religieuse, qui en tout cas n'ont pas droit de citer dans ce domaine des sciences humaines. Donc les hypothèses de travail sur le pardon sont compliquées à poser. En revanche, là où les psychologues ont quelque chose à dialoguer, et en lien avec l'ouvrage de Guillaume, c'est la question vraiment du comment. Comment, parce que là où la philosophie nous éclaire vraiment sur l'aspect extrêmement vaste du pardon au plan intellectuel, la technique thérapeutique va consister à rendre plus lisibles en fait les idées qui sont cachées dans la thérapie, comme les idées cachées que vous pourriez avoir dans une ouverture, dans un jeu d'échecs. Et effectivement, la psychothérapie s'applique concrètement à mettre en œuvre une grande partie des conclusions explorées par Guillaume. Alors effectivement, est-ce que le pardon fonctionne pour relever la victime ? Si on reste dans la question empirique, nous on part toujours des personnes, des cas cliniques pour réfléchir. C'est aussi une grande distinction entre la philosophie et la psychologie. Est-ce que le pardon permet de drainer, de restaurer, d'apaiser, de guérir la mémoire traumatique ? Peut-être que oui. Mais là aussi, la grande difficulté du psychologue va consister à dégager en fait deux parties, c'est-à-dire le coupable et ou la victime. Là aussi, de dégager cette identité de coupable ou de victime de tous les effets collatéraux cliniques en fait de l'agression pour pouvoir engager un processus de pardon. Je m'explique avec un exemple. Bien souvent en psychothérapie, notamment je pense aux adultes qui ont été victimes enfants d'actes graves et qui ont survécu, eh bien, il va falloir, par exemple, dégager l'adulte qui se sent coupable d'avoir participé à des actes enfants. Je pense notamment au cas de la pédophilie, qui est un grand motif de consultation. Là aussi, vous voyez, la culpabilité de la victime qui est innocente, mais qui se croit coupable d'avoir participé à des actes qui lui étaient imposés, c'est typiquement des zones cliniques où les distinctions entre coupable et victime doivent être très nettes dans la tête du psychothérapeute, de façon à pouvoir être transmises de façon nette au patient. Et pourtant, nous avons assez peu d'outils pour vérifier justement que la victime est en train de se dégager d'une position purement de victime et d'engager un processus de pardon. Et puis dans les faits, entre ce qu'écrit la philosophie, ce qu'écrit la psychologie plus récemment, dans les faits, le pardon ne se passe jamais vraiment de façon pure et de façon homogène. C'est-à-dire que toute cette hypothèse autour de la bonté foncière, notamment dans les Odyssées du pardon, eh bien, le cadre de travail est différent. C'est-à-dire que Guillaume va citer des événements, par exemple, où la communauté est un médiatrice du pardon, tandis que le psychologue travaille dans un cadre individuel. C'est-à-dire que ce qui nous amène à deux contextes à bien différencier. Le contexte de l'homme social et puis le contexte de l'homme dans son psychisme individualisé, qui, in fine, s'inscrit dans la communauté, je dirais, ensuite. Pour souligner en fait la spécificité de mon métier par rapport à la recherche de Guillaume Kos, il y a aussi une subtilité de vocabulaire qui m'a sauté aux yeux en vous lisant. C'est qu'on peut noter que vous parlez de coupable, là où le psychologue va beaucoup plus facilement parler d'agresseur. La perspective est assez différente. C'est-à-dire que dans cet ouvrage, Guillaume considère d'emblée l'agresseur comme reconnu objectivement coupable. Ce qui présuppose déjà que la victime ait déclaré l'agression, ait pointé l'agresseur ou du moins appelé le témoignage de la communauté en sa faveur. Par voie de conséquence, la présence de la communauté est là. La présence du groupe est préalable dans le dommage causé à la victime. Et puis, ça situe aussi cette problématique dans un processus qui va engager immédiatement le coupable, la victime et la communauté dans laquelle il se situe. Le psychologue, quant à lui, ne parle pas de coupable, il parle d'agresseur et il prend dès lors comme le parti des victimes avant de s'interroger sur son inscription dans une communauté. Et là aussi, le psychologue ne s'intéresse pas tant à la vérité objective, mais plutôt à traiter la vérité subjective. Alors, est-ce que c'est une limite de la psychologie? Pourquoi pas, on aurait beaucoup à débattre. Et est-ce qu'il y a ici un champ potentiel de recherche pour ces deux disciplines qui pourraient se croiser? Pour le dire autrement, en pratique, dans le quotidien de l'écoute et de la parole des victimes et des victimes d'actes graves, le fil rouge, en fait, qui semble apparaître sur la question du pardon est relié à la question du traumatisme et à la question plus récente de la dissociation. La dissociation post-traumatique, c'est quand les actes commis ont été suffisamment graves pour que la personne structurellement se divise. Et l'objectif, en fait, thérapeutique en psychologie, c'est vraiment progressivement de soutenir la victime, de l'aider à se relever au sens d'une intégration possible de la mémoire traumatique. Vous allez me dire, c'est bien abstrait, alors que nous parlons très concrètement avec nos patients de ces réalités. En fait, un traumatisme grave, qu'est-ce que c'est? Enfin, disons qu'une rupture d'intégrité du psychisme ou du corps qui mènerait paradoxalement à la question de la souffrance et à celle du pardon quand ces blessures ont été infligées par un autre être humain, eh bien, au départ, il y a un échec originel du corps et du psychisme et du cerveau, notamment dans l'hippocampe, à intégrer, à dépasser cette expérience traumatique et à en faire un souvenir vécu comme passé. C'est pour ça que la philosophie a beaucoup à nous apprendre sur la question du temps, du passé, du présent et de l'avenir. Dans le traumatisme, le passé traumatique reste présent et empêche d'aller vers l'avenir. Et l'accent dans toutes les thérapies qu'on met en œuvre actuellement, je pense notamment à toutes les thérapies extrêmement innovantes qui viennent d'Amérique, comme le MDR, comme l'hypnose intégrative, comme le brain spotting, comme la méditation de pleine conscience, qui est un dérivé en fait de la méditation bouddhiste et qui est extrêmement utilisée pour les victimes maintenant dans des contextes laïques et hospitaliers. Eh bien, tout l'accent va être mis sur l'importance du corps pour que le traumatisme puisse être intégré à l'histoire de vie du sujet et donc à son identité. Et puis sur la place capitale du corps dans le traitement de la dissociation. Ces traitements, en fait, sont parfois préalables même au fait que la personne accompagnée puisse se poser la question du pardon, ou en tout cas d'un pardon le plus souvent élaboré comme unilatéral, c'est-à-dire quand il n'y a plus de lien avec l'agresseur, quand il est mort, quand il a disparu, quand il ne s'est pas repenti, ou quand il est nécessaire de sauvegarder la victime de tout contact potentiel avec son agresseur. Voilà, l'intégration de l'expérience traumatique, c'est vraiment un sujet en pleine explosion en France, particulièrement depuis le Bataclan, l'explosion aussi des techniques associées à ces possibilités d'intégration, donc neurologiques, psychiques, corporelles, et qui ouvrent à la dimension plus spirituelle et qui soutient en fait qu'il y a un soubassement du pardon humain, est tout à fait en pleine explosion, on pourra en parler. Alors bien sûr, c'est toujours un défi d'articuler ces techniques psychologiques avec une attention constante à ce que la philosophie a à nous dire, et notamment lorsque la philosophie s'ouvre à des lectures bibliques au-delà d'une lecture qui est plutôt la nôtre, qui est une lecture des symptômes. Donc c'est absolument nécessaire, il me semble, d'être en dialogue dans ces approches qui sont vraiment soutenues par la même envie, le même idéal qui serait que le pardon est un processus fondamentalement humain, est un besoin fondamental de l'humanité auquel se raccrocher est un terme un petit peu trop, je dirais pas assez noble, mais en tout cas que dans les composantes communes du pardon, nous pouvons trouver des face-à-face d'humanité extrêmement importants pour aider les victimes. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je souhaiterais simplement laisser cet ouvrage de Guillaume Cause vous inspirer dans votre propre pratique, dans vos propres recherches, afin d'affiner vraiment la compréhension du pardon comme un très grand thème dont nous avons absolument besoin, notamment en termes de santé publique. Et puis, souligner aussi le courage de Guillaume qui a su travailler sur ce thème, au risque d'ailleurs de subir une forme de d'ostracisme universitaire ou académique que je peux comprendre, l'ayant moi aussi traversé, ayant dû aller faire ma thèse au Canada pour pouvoir travailler sur le pardon, parce qu'en France, il n'était pas possible à l'époque de travailler sur ce thème. Voilà, la qualité de cet ouvrage est, me semble vraiment de pouvoir faire alliance entre plusieurs champs de recherche, plusieurs disciplines, et de s'appuyer vraiment sur notamment des lectures bibliques qui sont qui font partie en fait des fondamentaux de notre patrimoine culturel et spirituel. Voilà, merci beaucoup Guillaume, puis j'espère surtout qu'on aura l'occasion d'échanger beaucoup sur ces différences et parfois même ces accrochages dans la métabolisation de la mémoire traumatique par le pardon, avec le pardon comme objectif secret en tout cas, qui voyage sans être tout à fait nommé en psychologie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Lorraine Gravreau-Angineau de nous avoir ainsi partagé vos impressions de lecture à partir de votre champ de travail et d'avoir montré aussi les complémentarités possibles entre l'approche psychologique qui est la vôtre et celle de la philosophie. Alors, nous allons entendre maintenant justement une philosophe, c'est Clarisse Picard, donc qui va elle aussi partager disons sa lecture de cet ouvrage de Guillaume. Il faudrait mettre ton micro, Clarisse.
Ah, ce sera mieux. Voilà. Merci, Étienne. Bonsoir, Guillaume. Bonsoir, Lorraine. Bonsoir, Michel. Bonsoir à chacune et à chacun. Je te remercie, Guillaume, de m'avoir demandé de lire ton livre, qui est un très beau livre, qui en fait est une méditation donc sur le pardon. Et je suis très heureuse de présenter ton livre ce soir. Alors, tu écris Le pardon ou la victime relevée dans un contexte de crise. En 2018, le scandale d'abus sexuels commis par des clercs de l'Église catholique à l'égard d'enfants, de femmes et de personnes vulnérables éclate au grand jour grâce au combat d'associations de victimes relayées par la presse. D'autres institutions seront visées, les institutions éducatives, sportives, culturelles, politiques, mais aussi l'institution familiale. Mais si l'Église est la première des accusées, c'est au moins pour deux raisons, précises-tu. D'une part, l'attente dont elle s'est souvent prévalue d'une perfection des comportements de ses membres, et d'autre part par le silence institutionnellement entretenu sur les crimes commis, permettant par là que d'autres crimes soient commis et contribuant à augmenter la souffrance des victimes. Alors tu vois, dans la mise à jour de ces scandales, une épreuve de vérité, un moment de justice, c'est aussi, je te cite, et c'est ce que ce livre veut montrer, le moment de redécouvrir le vrai visage du pardon. Alors, quel serait ce vrai visage du pardon que tes recherches en philosophie nous permettent de redécouvrir? Bien compris, et c'est l'enjeu majeur, je te cite page 10, le pardon est un recours puissant pour les victimes, pour se relever, retrouver leur dignité, leur liberté, leur parole, leur place pleine et entière dans la société. Il est aussi une ressource fondamentale pour les communautés que touchent ces crimes. Il est enfin, et c'est la part la plus connue du pardon, ce qui conduit le coupable à se repentir et reconnaître sa culpabilité. Fin de citation. Mais le pardon a été pour une large part réduit à cette dernière dimension, donc la demande de pardon que la victime doit accepter. Pire, lorsque le pardon a pu être instrumentalisé, se faisant alors l'ennemi des victimes, au service du pouvoir d'effort. Alors, dans ce contexte de crise, la recherche philosophique sur le pardon que tu mènes au long cours rencontre l'urgence de l'actualité et la nécessité de faire redécouvrir le pardon et de le faire connaître par le plus grand nombre. Alors, depuis plus de 10 ans, tu n'as cessé d'être attentif au pardon, de le chercher, de l'expliciter, de le découvrir, de découvrir la puissance qu'il recèle en même temps que la difficulté à en parler. Et tu conduis cette enquête sur le pardon à la recherche de ses diverses manifestations dans une pluralité d'airs et de figures culturelles. Dans les récits mythologiques et religieux, dans les œuvres littéraires, tragiques et poétiques, mais aussi dans l'art de la calligraphie ou encore dans la chorégraphie. Il s'agit à chaque fois de faire retour à la genèse du pardon, à sa source la plus intime, à la scène originaire du pardon. Dans l'horizon de cette ample recherche, l'essai que tu nous offres ici propose de faire retour à la genèse scripturaire du pardon, spécialement dans l'évangile de Saint Matthieu, identifié par les exégètes comme le plus complet sur la question. Tu interprètes ces passages en philosophe, nourri par une longue méditation de ces textes et de l'expérience dont il est question, en dialogue avec d'autres philosophes tels que Karl Jasper, Paul Ricoeur, Emmanuel Levinas, Vladimir Yankelevitch, Hannah Arendt et Jacques Derrida, qui depuis la Seconde Guerre mondiale ont relancé, même avant d'ailleurs, ont relancé une réflexion philosophique d'envergure sur le pardon. Alors, ce faisant, ta réflexion se déploie dans l'unité d'une double méthode, une herméneutique des textes des évangiles et une phénoménologie du sujet à l'épreuve du mal commis et du mal subi traversé par le pardon. 5 méditations donnent ainsi au lecteur de redécouvrir le pardon comme un double processus, je te cite page 12, au travail du pardon qui conduit l'agresseur à prendre conscience de sa culpabilité, correspond le travail du pardon par lequel la victime est entourée, soignée, prend peu à peu conscience de ce qu'elle a subi, de l'injustice de sa souffrance, jusqu'à la possibilité d'une demande de justice, qui ne soit pas vengeance, ou la réconciliation avec soi-même précède et prépare la réconciliation avec l'autre. Fin de citation. 3 dimensions oubliées du pardon sont progressivement mises à jour. La dimension corporelle du pardon, la dimension communautaire du pardon, enfin, liée aux 2 précédentes, l'attention apportée à la victime dans le travail du pardon. Alors, une première méditation, la scène du pardon, place le lecteur au milieu des disciples de Jésus. Nous sommes au début du chapitre 18 de l'évangile de Saint Matthieu. Il est question pour Jésus de vérifier la confiance des disciples. Pour vérifier cela, Jésus appelle un enfant, il le place au milieu d'eux, puis il parle. Son discours est à la fois pédagogique et préventif. Il s'agit pour les disciples d'accueillir le don de la vie avec gratitude et gratuité, tandis que le mal est la main mise sur ce don. L'enfant au milieu d'eux est la figure du don de la vie, promesse d'avenir, à accompagner et à soutenir, mais que son statut fragile rend vulnérable à l'égard des adultes. L'enfant, c'est chacun de nous. Lorsque nous vivons dans la joie de ce don, mais aussi lorsque la confiance originelle en ce don est trahie, trompée, volée, violée, si ce n'est tuée. Le pardon est alors ce qui cherche à prévenir le mal. Il prend ici la figure de l'enfant et de Jésus et de leur relation. Tu recours à la métaphore de l'enfantement, soulignant la proximité entre pardon et enfantement. Tu décris Jésus en position de sage-femme, dans ce qui s'apparente pour l'enfant à une naissance au monde commun, et où la communauté reconnaît son rôle conjoint dans la formation de l'enfant. Une deuxième méditation, l'Odyssée du pardon, s'ouvre sur une réflexion sur le scandale qui désigne une occasion de chute. Une pierre d'achoppement qui fait tomber. Le scandale a ainsi une double face, comme tu le définis, faire chuter autrui et chuter soi-même. Portant la main sur l'enfant, le coupable entraîne l'enfant dans sa chute. Jésus ne lâche pas le petit, demeure avec lui, le tient dans l'amour jusqu'aux plus grandes profondeurs de l'abîme, là où il y a confusion, autre nom de l'enfer. Il faut à ce moment-là pouvoir envisager avec Hannah Arendt qu'il y a une limite au pardon, qu'il y a de l'impardonnable. Tu mentionnes ici le remarquable travail de Marie Jautiel qui fait connaître l'ampleur des séquelles dont souffrent les victimes, plongées dans une profonde désolation, amnésie post-traumatique, altération des facultés de penser, de sentir, d'être en relation, d'estime de soi, etc. Tout l'enjeu sera alors de démêler ce qui a été confondu par le mal commis et subi, de séparer la victime de l'auteur du mal, de ramener l'un et l'autre, séparément et différemment, sur la rive des vivants. L'interprétation conjointe de la brebis égarée et retrouvée en Matthieu 18, 10, 14 et de la brebis perdue en Luc 15, 3, 7 enseigne la double dimension du pardon. Du côté de la victime, elle est son relèvement. Du côté du coupable, elle est sa conversion. Dans ces deux odyssées du pardon, selon une expression de Paul Ricoeur, quelles sont les médiations? Tu interroges la place de la justice pénale, de la justice restaurative, mais aussi de la communauté et des rites. Et l'une des originalités de ton travail, me semble-t-il, est l'attention portée au pardon comme rite, c'est-à-dire comme forme capable de relier des hommes dans une force structurante. C'est le thème d'une troisième méditation, « Rites et institutions du pardon », dans lequel tu rappelles que les rites nous relient au sacré. Ils accomplissent le passage symbolique de la mort à la renaissance. En ce sens, l'unique source du pardon est la mort et la résurrection de Jésus, que Jésus réalise pour nous et en chacun de nous. Le pardon est en ce sens un don second, la possibilité de traverser l'enfer du mal en vue d'une nouvelle naissance. C'est ici que le rite est nécessaire. Il réalise l'unification de soi et l'unification de la communauté. Il participe à ce que tu nommes la culture du pardon, en référence à Emmanuel Lévinas. Une quatrième méditation, la transmission du pardon, fait apparaître que le pardon est alors moins ce que le coupable demande et ce que la victime accorde qu'une transmission. Et si le pardon se transmet, ce n'est pas d'abord entre le coupable et la victime, dont la rencontre n'est pas toujours possible, voire même peu souhaitable parfois, qu'entre la victime ou le coupable et une personne en mesure de les accompagner. Je te cite page 125, « Ce qui se joue alors, précises-tu, est moins un échange qu'une forme de transmission, une formation au pardon. » Fin de citation. La transmission du pardon, c'est renoncer au cercle vicieux de la vengeance et entrer dans le cercle vertueux de la vérité et de la justice. Il faut que l'on pardonne, écrit Hannah Arendt, que l'on laisse aller pour que la vie puisse continuer en déliant constamment les hommes de ce qu'ils ont fait à leur insu. On pourrait alors croire que le pardon est l'annulation de la dette. Mais la parabole du débiteur impitoyable en Matthieu 18, 23, 25 témoigne que le pardon n'agit pas ainsi. L'homme demande que sa dette soit réduite, assez pour entrer dans un cadre juridique avec une sanction possible. Mais la sanction ne suffit pas à rembourser la dette. Une autre dimension est nécessaire, c'est ce que le pardon peut accomplir au-delà de la justice. Le pardon est-il plus fort que l'impardonnable ? Ce pouvoir de pardonner, d'où vient-il, interroges-tu? Le pardon, comme l'amour, est antipolitique, selon Ricoeur. Il aurait davantage à voir avec la natalité, selon Arendt, capacité de l'homme à innover, qui renvoie au miracle que constitue chaque naissance et qui reparaît dans chacune de nos actions. En ce sens, le pardon est un don de liberté à ceux qui l'ont perdu. Pour le coupable, c'est la possibilité de renouer avec l'humanité originellement bonne. Tu vaux mieux que tes actes, tandis que pour la victime, c'est la possibilité d'accueillir à nouveau le don de la vie, ce que tu as subi et qui se continue dans des souffrances profondes, n'atteint pas la bonté qui, en toi, est fondatrice de ton identité et de ta relation aux autres. Enfin, dans une cinquième méditation, le pardon de l'homme, tu proposes de faire retour sur l'ensemble du parcours et de voir quelle humanité se dessine à l'aune du pardon. Je te cite, « Le pardon est comme une autre naissance, l'entrée dans un monde nouveau. » Je te cite encore page 164, « Traversé par le pardon, l'homme retrouve son identité dans les dimensions d'un moi d'autant plus solide qu'il est humble et ajusté et d'un soi avec autrui d'autant plus fidèle qu'il est vrai. » Ce qui confirme que l'homme se constitue personnellement et collectivement à partir de la confiance originelle dans le don de la vie qui est de donner et de recevoir sans main mise sur ce don. Enfin, le pardon révèle que l'homme est un être d'alliance. Il s'humanise par la conversation et l'action commune, par des paroles vraies et des gestes ajustés. Au thème de ce parcours autour du pardon, Je voudrais revenir sur les trois dimensions oubliées du pardon que tu as fortement donc contribué à faire redécouvrir, donc la dimension corporelle, les dimensions corporelles, communautaires et la place de la victime dans le pardon, reprendre quelques traits de ces grandes redécouvertes et poser des questions donc peut-être pour le débat qui va suivre. Alors sur la dimension d'abord corporelle du pardon, donc le pardon, comme tu le rappelles, répond à une dimension très archaïque du mal, liée à la transgression du tabou, vécue comme souillure du corps et de l'âme. Dans ce contexte, la redécouverte de la dimension corporelle du pardon permet de ne pas en limiter notre compréhension à ce qui s'opère dans l'intime de la conscience, mais à l'étendre à ce qui concerne le soin de toute la personne, corps, psyché et intellect. En réponse à cette nécessité, tu permets de redécouvrir que l'œuvre du pardon est corporelle, au double sens du corps personnel et du corps social. Il se manifeste à la fois comme force, Maine de Biran, et comme affect, n'est-ce pas, chez Ricoeur. Il s'exprime comme geste et parole, comme rite et symbole. Alors ma question serait la suivante, quel serait le rite du pardon que tu sembles appeler de tes vœux, qui, avec le sacrement catholique de confession, mais si je comprends bien aussi au-delà de ce sacrement, comprendrait tout cela à la fois. Ensuite, sur la dimension communautaire du pardon, tu montres que sont intrinsèquement liées la restauration d'identité de la victime, celle de la communauté que touchent ses crimes, enfin celle du coupable. L'enjeu du pardon est le retour de la victime puis du coupable dans la communauté des humains. Dans cet horizon, tu évoques à juste titre la nécessité que les institutions soient interrogées sur leur fonctionnement, les silences à propos des crimes, les inégalités induites par leur structure. Cependant, ne faudrait-il pas aller plus loin dans notre compréhension de l'extrême ambivalence d'une communauté ou d'une institution à l'égard des personnes victimes de crimes commis en son sein ? Je fais ici référence aux travaux de Dorothy Ducy, autrice de l'ouvrage « Le berceau des dominations », épuisé et réédité chez Stock en avril, qui dans Le Monde, le 23 novembre 2020, constate que dans la majorité des cas, je la cite, « s'il n'est pas rare que les révélations d'inceste soient finalement crues, cela n'empêche pas de faire famille autour du violeur et d'exclure la femme ou l'homme incesté ». Elle avance l'hypothèse que l'inceste, paroxysme de domination, structure l'ordre social. N'avons-nous pas alors à mieux connaître ces mécanismes complexes de domination qui structureraient donc implicitement l'ordre social, ce qui engage un travail à la fois de compréhension et de prévention, ce qui implique aussi de comprendre que pour la personne victime d'agression, ce n'est souvent pas au sein de la communauté initiale qu'elle trouvera soutien et réparation, l'obligeant à aller trouver ailleurs donc ce secours. Enfin, ce qui m'amène donc à la troisième dimension oubliée du pardon, l'attention à la victime. Alors tout l'enjeu de tes recherches consiste à mieux connaître, pour mieux accompagner, le long travail en quoi consiste donc le relèvement de la victime, jusqu'à la possibilité pour elle de dire à nouveau oui à la vie, comme expérience d'une nouvelle naissance. Ce qui nous invite à porter une attention redoublée, me semble-t-il que là également le travail n'est pas fini, et comme en témoignait également Lorraine tout à l'heure, ce qui nous invite donc à porter une attention redoublée à la façon dont les personnes victimes d'agression vivent la réconciliation avec soi-même qui précède et prépare la réconciliation avec l'autre. Cette articulation, tu la travailles et il me semble qu'elle reste vraiment un point central et important à penser. Mais aussi à la façon dont tous ceux qui les accompagnent, médecins, psychologues, psychanalystes, médiateurs, avocats, juges, etc., trouvent des paroles vraies et des gestes ajustés. Je te remercie beaucoup, Guillaume, de nous permettre de penser donc ce processus du pardon d'une immense richesse. Et voilà, je crois qu'il y a donc une culture du pardon à valoriser. Je crois que c'est ce à quoi tu cherches à œuvrer. Merci pour tout ça.
Merci beaucoup, Clarisse, pour cette intervention qui nous a permis de traverser le livre de Guillaume, et puis aussi pour ces questions que tu as pointées à la fin de ton intervention. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Michel Fédoux, Donc, il va nous donner un autre éclairage encore, cette fois-ci, l'éclairage d'un théologien. Voilà.
Merci beaucoup. Je remercie vivement Guillaume Cos de m'avoir invité à prendre la parole à propos de son livre, dont le sujet est à la fois si important et si grave. Je ne reviens pas sur le vigoureux diagnostic qui est posé dès l'introduction, Clarisse Picard l'a rappelé. On a largement oublié la dimension corporelle, la manière dont la victime se trouve blessée dans sa corporéité et son psychisme. On a souvent perdu de vue la dimension communautaire du pardon et finalement la victime a été trop souvent écartée du travail du pardon. C'est vraiment l'une des thèses essentielles du livre que l'œuvre du pardon commence avec la personne qui est victime et ne passe que dans un second temps vers l'agresseur. Je ne reviens donc pas sur ce diagnostic. Je voudrais par contre retenir quelques éclairages fondamentaux sur ce que signifie pardonner. Voici au moins quelques-uns de ces éclairages. D'abord, cela a été déjà rappelé, le lien intime entre don et pardon. Le don institue la confiance, le pardon restaure la confiance perdue. Dans le passage du don au pardon, le mal est traversé. Le lien ensuite entre pardon et bonté. Je cite Guillaume, le pardon est ce qui traverse le mal et permet à l'homme de renouer avec la bonté. Comment cela est-il possible? Guillaume rappelle ici la réponse de Paul Ricoeur. Le pardon délie l'auteur de son acte mauvais et relie l'auteur à son origine de bonté. Mais Guillaume ne se contente pas de reprendre les analyses fameuses de Ricoeur sur la symbolique du mal, sur la symbolique du pardon. Il réfléchit à ce qu'il en est pour la victime elle-même, la manière dont elle peut elle-même être relevée. Et c'est alors que de nouvelles symboliques se dévoilent. Là où la victime a éprouvé blessure, misère et désolation, elle peut parcourir un chemin qui l'en libère, moyennant purification, miséricorde et consolation. Si l'un et l'autre chemin sont effectivement accomplis, l'un et l'autre, donc pour le coupable et pour la victime, alors le pardon atteint sa figure accomplie, celle de la réconciliation. Cette réconciliation n'est évidemment pas l'oubli du crime commis, ni la négation de la justice pénale, et n'en est pas moins, dans les meilleurs des cas, l'aboutissement du chemin de pardon. Il s'agit d'un relèvement, pour prendre le mot du sous-titre, la victime relevée, un relèvement, c'est-à-dire ce qui permet à l'être humain de redevenir homme. Je cite Guillaume, « Le pardon est le don fait à l'homme pour qu'il demeure et devienne lui-même jusqu'au bout, malgré tout. » Je voudrais encore revenir sur un autre apport du livre qui m'a particulièrement retenu comme théologien, et Clarisse en a déjà parlé. Le livre repose par toute une part de lui-même sur une lecture que je trouve très remarquable du chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. C'est vraiment cette lecture qui, dans une large mesure, me semble servir de fil conducteur, et cette lecture, en tout cas, laisse bien paraître la source qui inspire en profondeur les analyses sur le pardon. Cela ne va pas sans paradoxe, car, comme Guillaume le fait observer, le pardon n'apparaît explicitement que dans les deux dernières péricopes de Matthieu 18. Mais Guillaume commente la totalité du chapitre, y compris donc la première péricope où l'on voit Jésus confronté à la question des disciples, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Question à laquelle Jésus répond par un geste d'abord, le geste de placer un enfant au milieu des disciples. Il n'est pas encore question de pardon, et cependant l'épisode est décisif. Tout commence par ce que Guillaume appelle un vœu, le vœu silencieux que la présence de l'enfant représente au milieu de la communauté. Et c'est justement ce vœu qui sera mis à l'épreuve du mal, d'où la péricope suivante dans laquelle Jésus met sévèrement en garde contre le scandale qui advient plus que tout lorsque l'agression se porte contre les petits. Et la suite du commentaire de Matthieu 18 est non moins remarquable. Je relève en particulier, à nouveau, parce que Clarisse qui a fait allusion déjà, ce qui est dit sur la parabole de la brebis égarée. Cette parabole prend de fait une résonance inouïe à la lumière de ce qui la précède. La brebis égarée, c'est, je cite, la figure du petit victime de scandale. Et c'est justement cette victime que le berger va rechercher et qu'il a tant à cœur de faire revenir dans la communauté. Mais ce n'est pas tout. Un regard sur le texte parallèle dans l'évangile de Luc montre que, dans ce dernier cas, la brebis perdue désigne plutôt le coupable, compte tenu du contexte de la parabole dans l'évangile de Luc. Ainsi, les deux versions, matthéenne et lucanienne, les deux versions de la même parabole, mettent en évidence la double dimension du pardon, le pardon comme relèvement de la victime, en Matthieu, le pardon comme conversion du coupable, en Luc. Je ne m'arrête pas sur le reste du commentaire, sinon pour souligner brièvement deux points. D'abord, la remarque selon laquelle la suite de Matthieu 18 introduit la dimension communautaire du chemin de pardon. Et enfin, l'importante réflexion sur la question, y a-t-il ou non de l'impardonnable ? Guillaume rappelle ici la réflexion de Paul Ricoeur. Dire d'un homme qu'il est impardonnable, c'est dire de lui qu'il n'est pas humain. Alors, bien sûr, la parabole du débiteur impitoyable introduit une réflexion complémentaire. Si le roi reproche au débiteur de n'avoir pas à son tour remis la dette de son compagnon, c'est bien apparemment qu'il y a un impardonnable. Simplement, nous dit Guillaume, cet impardonnable n'est pas la dette accumulée, mais il survient plutôt, je cite, « lorsque le pardonné refuse de pardonner à son tour ». Sans doute est-ce entre autres dans ce sens que l'on peut comprendre la fameuse parole de Jésus en Matthieu 12, 32, « si quelqu'un parle contre l'esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Au fond, tout serait en soi pardonnable, sauf justement le refus du pardon. Les quelques apports que j'ai brièvement recueillis ne rendent évidemment pas compte de toute la richesse du livre, mais j'espère qu'ils attirent suffisamment l'attention sur l'importance de cette réflexion développée par Guillaume. Et je voudrais terminer en formulant trois réflexions ou questions qui me sont venues à l'esprit. La première m'est suggérée par les quelques références que Guillaume, à la suite de Paul Ricoeur, emprunte à la littérature grecque. Guillaume reprend notamment l'image de l'Odyssée pour évoquer les chemins que le coupable et la victime sont appelés à suivre. L'Odyssée d'Ulysse, je cite, est une manière de figurer la traversée de l'abîme qui va séparer victime comme coupable du reste des hommes. Guillaume fait aussi référence aux tragédies grecques. Elles étaient, dit-il, des rituels du pardon par leur effet cathartique. Cela laisse entendre, semble-t-il, qu'il y avait bien une certaine conscience de faute à réparer, une certaine conscience d'un besoin de réconciliation, au moins pour les membres de la cité pour qui la mise en scène des drames devait avoir un effet de purification. On comprend donc que les quelques références à la littérature grecque chez Guillaume comme chez Paul Ricoeur, n'ont pas simplement une valeur illustrative. Par exemple, l'Odyssée comme allégorie d'une longue traversée. On comprend que ces références disent elles-mêmes quelque chose du chemin qui peut conduire la victime et le coupable vers le pardon. Et de fait, est-ce qu'on ne pourrait pas vérifier cela à partir de telle ou telle tragédie? Je pense par exemple à la fameuse ou aux fameuses tragédies de Sophocle sur Œdipe. Certes, on le souligne avant tout, Œdipe est victime du destin. Mais Sophocle ne laisse-t-il pas entendre qu'Œdipe a malgré tout quelque part de responsabilité, non pas forcément dans les crimes qu'il a commis dans le passé, mais en tout cas dans l'égarement qui le conduit si longtemps à fermer les yeux sur ce passé. Et le poète ne suggère-t-il pas, pour ce personnage d'Œdipe, un chemin de purification qui débouche finalement sur une forme de consolation, si l'on en juge par le dénouement d'Œdipe à Colone. Je pense aussi à la trilogie d'Eschyle. Oreste, ici encore, est victime du destin, mais la trilogie ne reflète-t-elle pas aussi la conscience d'une faute? Ne témoigne-t-elle pas d'un chemin qui conduit à une certaine réconciliation, qui n'est pas seulement d'ailleurs celle du héros, mais celle de la cité. Alors, si cela est vrai, on doit bien reconnaître des chemins de pardon en dehors de la tradition biblique, et la question est celle-ci, jusqu'à quel point peut-on effectivement le reconnaître? Et si on le reconnaît, où situer alors l'originalité, la spécificité de ce qui est révélé par la tradition biblique à propos du pardon? Ne serait-ce pas dans la radicalité même de cette révélation qui donne d'éprouver la profondeur du péché et plus encore l'inouï d'un pardon qui peut être donné 70 fois 7 fois à la mesure de l'incommensurable miséricorde de Dieu? Une deuxième question m'est suggérée par une réflexion récurrente de Guillaume. La dimension communautaire du pardon. Guillaume souligne très justement que cet aspect est trop peu honoré sous nos latitudes. En réalité, dit-il, le péché ne peut pas être réduit à la conscience du pécheur, ni même au face-à-face entre le pécheur et la victime. C'est, je cite, une affaire communautaire qui doit être instruite comme telle. Cette insistance est de fait d'une grande portée. Sans doute l'a-t-on un peu redécouverte dans le champ de la liturgie, en instituant depuis Vatican II des célébrations communautaires du pardon, ou plus récemment des journées du pardon durant des temps liturgiques, comme ceux de l'Avent ou du Carême. Et cela est bien sûr très heureux. Mais il me semble que la réflexion de Guillaume a une portée plus large, et l'on comprend pourquoi. La crise des abus sexuels a fait réaliser, comme jamais auparavant, à quel point les fautes commises affectent non seulement tel individu, mais les membres d'une famille, le corps social et bien entendu le corps de l'Église elle-même. Sans doute est-ce l'opportunité, je pense, de retrouver ce qui était une évidence pour les chrétiens des tout premiers siècles, comme on le voit par certains textes patristiques du IIe, du IIIe siècle. Le péché était compris comme un acte par lequel on se retranchait de la communauté, tandis que le pardon était avant tout perçu comme une réintégration du pécheur dans cette même communauté. Il ne s'agit sûrement pas de relativiser la pratique individuelle du sacrement de réconciliation, qui est au contraire un très grand don pour l'Église. Guillaume remarque d'ailleurs que la présence de la communauté y est signifiée par la présence du prêtre. Cependant, ajoute-t-il, le danger qui guette ce sacrement est de le réduire à un face-à-face intime et juridique, alors qu'il doit demeurer la célébration communautaire d'une libération. La question se pose en tout cas, par quelle voie peut-on aider ou pourrait-on aider à acquérir une conscience plus profonde de la manière dont le péché affecte le corps social et le corps ecclésial? Et comment rendre davantage sensible au fait que les chemins de pardon ne doivent pas simplement engager les individus directement concernés, mais le corps même de la société et de la communauté ecclésiale? C'est la deuxième question que je voulais renvoyer. J'aurais enfin une troisième question sur un point qui n'est pas traité comme tel dans le livre, parce que ce n'était pas le sujet, mais qui me paraît malgré tout impliqué par les quelques références à la réconciliation au niveau d'une société ou d'une nation, en particulier dans le contexte de l'Afrique du Sud. Guillaume rappelle la réflexion de Ricoeur sur le rapport entre l'auteur d'un acte mauvais et cet acte lui-même. Le pardon, dit Ricoeur, délie l'auteur de son acte mauvais et relie l'auteur à son origine de bonté. Cela ne vaut pas seulement pour des individus isolés, mais aussi pour des groupes de personnes victimes d'idéologies politiques ou de ségrégations ethniques. Et Guillaume rappelle à ce sujet que de longs processus ont été engagés pour permettre de telles réconciliations, précisément, entre autres, en Afrique du Sud. Alors ma question est celle-ci, ne peut-on pas, mutatis mutandis, transposer cela à la situation des églises, qui se sont parfois affrontées avec la plus grande violence, comme le rappelle en France même l'histoire tragique des guerres de religion? Quelques événements récents témoignent déjà de belles réconciliations au plan ecclésial, comme par exemple la célébration commune du 500e anniversaire de la réforme protestante. Les divisions ecclésiales qui demeurent n'en soulèvent pas moins la question: quel chemin de réconciliation s'ouvre aux églises qui, malgré les avancées du dialogue œcuménique, gardent la mémoire et la mémoire douloureuse des blessures qu'elles se sont infligées dans l'histoire? Qu'est-ce qui peut être mis en œuvre pour que soit dénoué, ici également, le lien entre les auteurs des fautes et les actes qui ont été commis? Question d'autant plus délicate qu'elle porte en l'occurrence, ici, sur un passé parfois ancien, même si les traces en sont encore perceptibles dans le présent. Est-ce que les processus de libération qui ont eu cours dans des pays comme l'Afrique du Sud peuvent ou pourraient apporter des éclairages sur ce point? Mais ne peut-on pas aussi penser, en sens inverse, que les églises ont elles-mêmes une responsabilité particulière pour marcher vers leur propre réconciliation et que par cette voie précisément, elles pourraient contribuer à inscrire dans nos sociétés l'exigence de l'aveu, du repentir et du pardon? Ces quelques questions disent à leur manière combien le livre de Guillaume Cause est stimulant pour la réflexion, à la mesure de sa richesse et de sa profondeur. J'ajouterai pour finir que ce livre fait du bien au lecteur. Il ne fait pas qu'expliquer et éclairer, mais sans rien occulter des lourdes épreuves que doivent traverser les victimes et les coupables, ce livre laisse résonner d'un bout à l'autre l'appel de la miséricorde. Il fait entendre la bonté du pardon. Il ouvre à la consolation. Ce livre inspire donc la gratitude et je terminerai donc en remerciant vivement Guillaume de nous l'avoir donné.
Merci beaucoup Michel. Merci beaucoup pour nous avoir partagé aussi tes impressions de lecture et puis ces questions que tu formules. Voilà, donc ça fait pas mal de questions pour Guillaume. Je voulais rappeler aussi à tous les auditeurs que vous pouvez également poser des questions, n'hésitez pas. Je crois que j'en ai pas vu passer encore, mais vous pouvez utiliser donc la fonction du chat que permet Zoom et poser vos questions par écrit. Voilà. Et maintenant, donc, c'est Guillaume qui a la parole. Je précise aussi qu'on terminera de toute façon à 21h15. Voilà, pour que tout le monde sache quoi s'en tenir au point de vue du chronomètre. Voilà, Guillaume, eh bien, merci beaucoup aussi de nous partager tes réflexions après avoir entendu notamment toutes ces questions.
Merci beaucoup Étienne et merci à Lorraine, Clarisse et Michel pour vos lectures. Je reviendrai dans un instant à vos questions. Je vais commencer par quelques paroles plus générales qui me sont venues en préparant cette soirée. La première, c'est une surprise en découvrant le texte d'évangile du jour. C'était pas prévu du tout, mais c'est une belle rencontre. La deuxième, c'est il se trouve que j'ai regardé récemment une série sur Arte qui s'appelle En thérapie. Et pour ceux qui l'ont vu, vous aurez pu noter, comme moi, l'importance du pardon dans cette série. Et non seulement dans la quantité de fois où le pardon est cité, mais le fait qu'il est cité à des moments tout à fait cruciaux des thérapies. C'est un signe, entre autres, de la place, grande place du pardon, de la question du pardon dans nos sociétés. Et je pense que c'est quelque chose que Lorraine a évoqué. Mais c'est parce que cette question-là touche un fondement de notre humanité. C'est comment vivre ensemble de manière heureuse et confiante, malgré tout, malgré le mal, celui qu'on subit ou qu'on commet, celui qu'on s'attribue à tort, comme Lorraine l'a dit, ou celui qu'on refuse de s'attribuer malgré toutes les évidences, celui aussi peut-être qui nous hante en provenance des générations passées, plus ou moins cachées. Alors c'était le but de ce petit livre, de nous plonger dans cette réalité du pardon qui renoue avec cette bonté originelle. C'est sûr, c'est un acte de foi, pas seulement religieux, mais aussi philosophique, de croire en cette bonté originelle de l'homme, intacte. C'est un acte de foi que je reprends aussi d'une tradition philosophique qui est celle de Ricoeur, qui est celle de Hannah Arendt, qui est celle d'un certain nombre de penseurs. Et il nous reste ensuite à trouver des témoins, à trouver des témoins et à se mettre au travail pour mettre à jour ensemble cette bonté. Ce petit livre, comme disait Étienne, fait suite à un premier ouvrage que j'avais intitulé Le geste du pardon, qui était un ouvrage qui partait d'une question un peu différente de cet ouvrage-là, qui est le pardon au plan politique. C'est une question qui avait surgi après la Première Guerre mondiale, avec la rencontre d'Israël et de la RFA, renouer des relations entre elles, et puis aussi avec la création de ce qui allait devenir l'Union européenne. Et c'est une question du pardon politique qui avait ressurgi très fortement après la chute du mur de Berlin, avec la création des commissions vérité et réconciliation en Afrique du Sud, au Chili, et aussi tout ce qui tourne autour de la justice reconstructive. Et puis dans les années 95, vous en souvenez certainement, les déclarations de repentance, comme celle de Jacques Chirac aux Maldives. Alors, toutes ces questions politiques que j'avais reprises, en réalité, rejoignaient une question qui était plus ancienne dont j'identifie un moment fondateur en 2006. Alors, ça commence à répondre à une question qui m'a été posée sur ces rituels. Il s'agissait de... Il y avait les anniversaires ignatiens à Lourdes qui rassemblaient plusieurs milliers de personnes de la famille ignatienne. Et un soir, une grande célébration de réconciliation avait été organisée. Et à cette occasion, on avait demandé à la fois à des laïcs et à des prêtres de se mettre à disposition des personnes. Et moi, à l'époque, j'étais jeune religieux, laïc, donc. Et la première personne qui s'est approchée de moi, s'est révélée être une femme qui m'a raconté qu'elle avait été victime d'une agression quand elle était enfant. Et on a longuement parlé. Ça a été, je me souviens, comme une lutte ensemble pour chercher un passage. Et finalement, ça a été le moment de grâce pour moi dont j'ai pu être témoin d'un passage qui s'est trouvé. Et j'ai vu cette femme se relever devant moi. Et je pense que c'est cet étonnement et en même temps cette gratitude envers ce qui s'était passé qui m'a mis en route. Alors j'ai mis beaucoup de temps pour travailler, comprendre, mettre en mots. Et j'ai choisi la voie philosophique, bon, par attrait personnel certainement. Grâce à la rencontre de Paul Ricoeur, certainement, qui a travaillé cette question du pardon tout au long de sa vie, depuis les premiers livres de 1950 jusqu'à la fin de sa vie. Alors, je ne reviens pas sur l'occasion qui a donné naissance à ce livre-ci. Bon, on attend dans quelques temps les résultats de la CIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, présidée par Jean-Marc Sauvé, qui va être un moment très important pour l'Église et plus largement les prises de parole aujourd'hui des victimes dans la société, et puis la question de l'inceste qui a été aussi abordée, question qui a été posée. Alors j'en viens aux questions qui m'ont été posées précisément. Je vais les prendre dans l'ordre. Je commence par la remarque extrêmement éclairante de Lorraine sur le vocabulaire agresseur coupable. Je pense que c'est une remarque qui est très juste. Alors, de fait, dans le livre, mon vocabulaire vacille entre agresseur et coupable. Et le terme de coupable, en réalité, est un terme qui tient au travail de l'aveu, évidemment. Mais la remarque de Lorraine me fait dire que chez la victime, ce terme peut ne pas arriver et on peut s'en tenir à un terme beaucoup plus extérieur qui est le terme d'agresseur. Donc je retiens cette distinction et je vais la garder précieusement. Alors, ensuite, je reprendrai des éléments. Oui, sur la question de l'arme et du baume posée au départ. Alors évidemment, dans l'expression que j'ai, il y a une sorte de contrepoint que je cherche à prendre. Il y a une part de rhétorique, de dire que le pardon est plutôt un glaive qu'un baume. C'est certainement sous l'influence de Ricoeur, pour qui le pardon, c'est ce qui va séparer d'abord le coupable de ses actes. Mais j'entends aussi votre remarque et je fais mienne cette attention aussi à la dimension de baume dans la mesure où, du point de vue de la victime, le pardon est effectivement d'abord quelque chose de l'ordre de renouer, de refaire une unité. Ce qui va passer, bien sûr, par des séparations, ce que vous disiez aussi de la culpabilité qui, je ne sais pas comment on pourrait dire, mauvaise, c'est-à-dire le fait pour une victime de se sentir coupable. Voilà. Ça, entre parenthèses, c'est très bien rendu dans la série En thérapie. Bon, je vais arrêter de faire des publicités pour cette série. Alors, les questions de Clarisse. Alors, la première question rejoint aussi celle de Michel sur la question du rite, de la place de la communauté. Alors, premier élément de réponse que je trouve chez Lévinas, c'est de retrouver dans le monde chrétien, et peut-être plus largement dans la société, il faut voir, ce qui se passe au Yom Kippour. Et je pense que c'est aussi des éléments qui président à ce qu'on a retrouvé après Vatican II sur les célébrations collectives du pardon. Ce à quoi j'ai fait allusion dans ma petite histoire au début de ce qui s'est passé en 2006. Alors ça, c'est un premier élément liturgique, impliquer la communauté comme telle dans l'événement. Et puis, il y a tous les travaux de la justice reconstructive, beaucoup au Canada, mais aussi maintenant aussi en France, qui sont des travaux, des réflexions qui aident à comprendre comment précisément des éléments rituels interviennent pour que la victime retrouve son unité, retrouve sa place dans la communauté, etc. C'est d'ailleurs une des indications de l'Assemblée des religieux et religieuses à l'Église de France de s'inspirer de ces travaux de la justice reconstructive dans les semaines et les mois à venir. La deuxième question concernait l'inceste. Effectivement, ce sont les derniers éléments qui sont apparus dans la société, dans la continuité de la prise de parole des victimes, et qui rejoignent cet autre interdit fondamental, hein, avec le meurtre. Ce sont des éléments que j'ai commencé à travailler, que nous avons commencé à travailler ensemble, d'ailleurs, dans le séminaire de recherche sur le pardon. Et je crois qu'effectivement, c'est la prochaine étape qu'il va nous falloir franchir. Qu'est-ce que le pardon peut nous aider à dire et à proposer pour aider la société, parce que là, c'est une affaire sociale majeure, à réagir face à ces crimes. Alors, les questions de Michel sur la place du monde grec. Alors, il se trouve que ça, c'est un élément que j'ai travaillé pour une des séances de notre séminaire de recherche. Ça sera l'occasion, j'imagine, d'une publication commune dans quelques mois ou quelques années. Tout dépend si la pandémie nous laisse travailler davantage. C'est effectivement ce qu'apporte la tradition grecque, notamment les tragédies. Et Michel, tu as cité la trilogie d'Oreste, que j'ai beaucoup travaillé, qui est très éclairante, qui apporte des éléments tout à fait fondamentaux de ce qu'est le pardon et que l'on peut recueillir aujourd'hui. J'ajoute aussi la publication récente du séminaire de Jacques Derrida sur le pardon et le parjure, où il donne une grande place à deux traditions, d'un côté la tradition grecque et de l'autre côté la tradition juive et chrétienne, en montrant comment ces deux traditions sont deux points de vue complémentaires sur la question du pardon. Voilà. Et puis, dernier point, ce que Michel, tu soulignes sur le rapport entre les églises, je n'y avais pas pensé, mais je crois qu'effectivement, c'est une piste tout à fait intéressante d'élargir les propositions, notamment liées à la justice reconstructive, non seulement au rapport aux victimes en interne à l'Église, mais aux relations entre les Églises. Là, ça fait un champ de recherche tout à fait passionnant. Merci beaucoup d'avoir soulevé cette question. Voilà, mais encore merci à vous trois pour votre lecture bienveillante aussi de ce petit livre.
Merci beaucoup Guillaume pour ce que tu viens de dire, qui montre aussi l'actualité de la question. Et puis je trouve, on voit que c'est un champ qui dans la recherche, enfin il y a beaucoup de pistes qui sont travaillées, quoi. Alors, je crois qu'il y a deux questions qui sont arrivées posées par les auditeurs. Donc, je vais passer la parole à Fumi pour nous en donner un écho. Et puis après, Guillaume pourra reprendre la parole. Et je rappelle que tout le monde peut, n'hésitez pas, tout le monde peut poser les questions en utilisant le chat, donc l'écrit. Voilà.
Alors, je peux répondre, mais... aussi Lorraine, Clarisse, Michel, n'hésitez pas à prendre la parole aussi. Fumi, peut-être qu'il faut activer ton micro.
Ah oui. Voilà. Oui, merci. Donc, on vient de recevoir deux questions et elles sont adressées à Guillaume. Et Guillaume Kos. Et la première question concerne la lecture du sermon de la montagne de Matthieu, chapitre 6 de Matthieu. Et notamment, c'est pourquoi? Parce que l'auditeur, évoque la dimension communautaire et personnel de pardon qui lui fait qu'il est important. Et du coup je lis car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi les vôtres. Mais si vous ne les pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera vos offenses. Et du coup, apparemment, c'est de la dimension communautaire qui se manifeste je trouve. Et du coup, la question, c'est pourriez-vous nous donner votre lecture de ce rapprochement, le sermon montagne, si c'est possible. Et deuxième question concerne la place de la parole chez les victimes. Et il est cité dans votre, du que vous dites dans votre ouvrage, le processus du pardon commence pour le coupable par une parole et pour la victime par un geste de soin. Il est vrai que la victime semble muette au début, mais cependant, la question posée est la suivante. Nous pourrions ne pas penser que ce processus peut commencer pour la victime aussi par la parole. Et ça, cela implique aussi, par exemple, l'écoute de la famille, l'écoute des proches, notamment les victimes d'abus sexuels, notamment des enfants ou des adolescents.
D'accord, merci beaucoup pour ces deux questions. Alors, la première, je peux risquer une réponse et puis peut-être Michel pourra compléter. Et la deuxième, je ferai la même chose, mais je demanderai à Lorraine de compléter. Dans le Sermon sur la montagne, à la fin du Sermon sur la montagne, il y a cette fameuse phrase « Aimez vos ennemis ». Cette phrase est reprise et beaucoup commentée par Paul Ricoeur, précisément comme ce qui est pour lui exemplaire de ce qui est en jeu dans la question du pardon. Et de fait, c'est aussi quelque chose que j'avais travaillé à sa suite dans le premier livre. Alors, il est vrai que là, dans celui-là, je me suis concentré uniquement sur le chapitre 18. C'est aussi par souci de taille, de livre, de faire quelque chose d'assez bref. Voilà. Et puis, je pensais que ce chapitre 18 était suffisamment cohérent et permettait vraiment de passer par l'ensemble des étapes principales. Maintenant, il y a des échos très profonds entre le sermon sur la montagne et ce chapitre 18, notamment cette question de la transmission, la question du pardon comme transmission de pardon. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et de fait, dès le sermon sur la montagne, on entend que c'est une question à la fois personnelle et communautaire, puisque c'est chaque disciple qui est concerné, et c'est le petit groupe, et c'est le groupe plus large en même temps. La deuxième question, et puis je laisserai ensuite Michel et Lorraine intervenir si vous le souhaitez. Alors, il faudrait, quand on aborde la question du pardon, distinguer les types de crimes dont il s'agit. Et là, c'est vrai que c'est un parti pris de parler des crimes les plus graves. Mais il y aurait un autre travail à faire de distinguer les types de crimes, de délits, de fautes, et de parler du pardon, de décliner le pardon dans ces différentes circonstances. Là, ce sont les circonstances les plus graves et où, effectivement, ce dont parlait Lorraine, d'une dissociation, d'un traumatisme, fait que bien souvent, la personne n'est pas capable de parler. Et donc, il faut trouver des lieux plus profonds pour aller chercher, en fait, redonner naissance, en fait, à la parole aussi. Mais je suis tout à fait d'accord que dans des situations moins graves, effectivement, la parole est un lieu aussi de réunification à travers le récit. Et là, je renverrai volontiers à tous les travaux de Ricoeur sur l'identité narrative. Comment le récit permet de renouer, de refaire unité dans la personne. Mais je vous laisse, Michel et Lorraine, intervenir.
Peut-être, Michel, vous souhaitez intervenir ou...
Sur le premier point, je veux bien.
Allez-y.
Oui, sur le premier point. Bon, ce verset du chapitre 5 de Matthieu n'est pas équivalent à ce qu'on trouve dans Matthieu 18. C'est un verset qui est difficile à interpréter. Il y aurait une lecture possible de ce verset, mais c'est une lecture qui, à juste titre, a suscité de vives réactions, en particulier de la part de la théologie protestante, mais aussi de la théologie catholique. Une lecture qui consisterait à dire Voilà. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera vous aussi. Ça veut dire en quelque sorte que le pardon reçu de Dieu serait conditionné par le pardon que nous donnons aux autres et inversement. Voilà. Alors, je pense que c'est une lecture erronée du verset. Le verset ne laisse pas entendre que le pardon reçu de Dieu ne soit pas premier. Simplement, il attire l'attention sur l'exigence de cohérence entre l'attitude que l'on a vis-à-vis d'autrui, est-ce qu'on pardonnera ou pas, et le fait qu'on ait été déjà pardonné par Dieu. Voilà. Comme ça, me semble-t-il, que l'on peut entendre ce verset. Donc, quelque chose qui n'est pas dit au fond de ce verset, c'est que ce qui est premier, c'est le pardon reçu de Dieu. Mais une fois cela reconnu, alors il incombe évidemment à celui ou à celle qui en a bénéficié de pouvoir être lui-même dans une disposition de pardon vis-à-vis d'autrui, sauf à manquer de cohérence avec le don dont il a lui-même bénéficié.
Lorraine, si vous voulez à votre tour prendre la parole sur l'autre question.
Oui, alors je vous ramène peut-être avec moi dans le domaine de la psychologie. C'est des questions très importantes et très fondamentales que celles que vous posez. Il est difficile d'y répondre vite. Ça fait vraiment l'objet de débats assez passionnés hein, dans le séminaire de recherche sur le pardon. Vous parlez de la parole dans la question du pardon et Guillaume soulignait notamment aussi en introduction de son livre à quel point notamment du point de vue de la victime, la parole est une conquête ou un combat. Et aussi, Guillaume soulignait quelque chose qui m'a paru très juste, c'est à quel point pour l'écoutant, donc pour celui qui est en mesure de recevoir le témoignage d'une personne blessée, victime, quelle que soit la gravité de l'offense subie, l'écoute est aussi une épreuve. Donc dans notre métier, on va parler de fatigue de compassion, d'épuisement compassionnel quand on est confronté de façon récurrente à des récits qui risquent de nous traumatiser secondairement. Ceci mis à part, je voudrais souligner deux choses. C'est déjà la différence entre un souvenir normal et une mémoire traumatique, si vous me suivez jusque-là. Et puis aussi le repérage des symptômes qui mènent au diagnostic extrêmement tardif. C'est-à-dire que la parole est bien souvent une non-parole. C'est-à-dire que nous diagnostiquons en fait les offenses extrêmement graves par des signes corporels et non-verbaux. Voilà, je voudrais simplement vous dire que dans les souvenirs normaux, c'est-à-dire ceux qui peut-être seraient susceptibles d'être traités par un pardon immédiat, réciproque, les souvenirs ordinaires et non traumatiques relèvent de la mémoire épisodique, c'est-à-dire on peut se représenter l'événement. Alors je pense typiquement à tout ce qui a été modélisé dans les thérapies de couple sur la question du pardon, notamment après une trahison. On peut se représenter cet événement de la trahison, on peut associer des émotions à cet événement dans le présent et on peut aussi garder un sentiment d'appartenance autobiographique à ce couple ou à ce souvenir malgré en fait l'événement qui s'est produit, c'est-à-dire que ce qui s'est passé est bel et bien arrivé. Voilà, ça c'est un souvenir normal qui peut être associé à un pardon, j'allais dire de routine ou un pardon du quotidien. Si on peut en parler comme ça, c'est-à-dire un pardon réciproque, verbalisable. En fait, moi, mon travail commence ailleurs, c'est-à-dire là où les souvenirs traumatiques ne sont pas accessibles à la conscience. Hein, donc, on va parler d'amnésie traumatique. Au contraire, en fait, dans l'hypermnésie, on va avoir des flashbacks. Donc ça, vous le voyez dans la série En thérapie, hein, dont je fais la promotion aussi, même s'il y a des manières de traiter avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord. L'hypermnésie, c'est quand les flashbacks vont faire en sorte que le souvenir ne s'intègre jamais et il revient constamment, notamment la nuit, mais aussi en état d'hypervigilance la journée. Et puis, on va dissocier l'émotion qui est associée, c'est-à-dire qu'en fait, les patients qui ont vécu des atteintes graves à leur intégrité physique ou psychique, c'est-à-dire le point de départ du pardon commence là, hein, vraiment dans ce non-choix originel de ne pas avoir choisi d'avoir été blessé, eh bien, il y a des anesthésies ou au contraire des débordements émotionnels, où on revit sans cesse, en fait, parfois les sensations corporelles liées à l'événement. Et puis là aussi, il n'y a plus d'autobiographie possible dans le souvenir. C'est-à-dire qu'en fait, les patients, dans le vocabulaire technique, se dépersonnalisent. Ce n'est pas arrivé, c'est arrivé à quelqu'un d'autre, ou se déréalise, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'un souvenir, mais c'est un rêve, c'est une idée bizarre, je sais pas, ça me traverse, etc. Et puis, effectivement, finalement, c'est ça la mémoire traumatique. C'est une mémoire qui est totalement en dehors de la conscience ordinaire. C'est ce qu'on travaille vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis une dizaine d'années, en réactivant les théories de Pierre Janet, hein, qui était au début de la Première Guerre mondiale. Et Pierre Janet a malheureusement été supplanté en France par Freud. Et donc, on redécouvre seulement maintenant, en fait, l'héritage de toutes ces études sur la mémoire. Et donc, tout le repérage, en fait, que nous faisons est un repérage qui passe par le langage du corps, très clairement en psychotrauma. C'est-à-dire que finalement, par exemple, vous disiez dans la liste de questions, un enfant peut aller voir peut-être ses proches et parler de ce qui lui est arrivé. En réalité, je dirais que dans 90% des cas que j'accompagne, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que dans la réalité, un enfant n'a pas la capacité de décrire ou d'identifier ce qui lui est arrivé, mais va mettre en place des comportements qui vont attirer l'attention sur une souffrance ou une détresse. Voilà, donc ce qui est aussi décisif parfois pour travailler parfois avec des religieux, c'est dans les communautés religieuses, parfois il y a des supérieurs qui vont appeler en disant « mais attendez, on comprend pas le comportement du jeune qu'on a, voilà, qui dit qu'il est appelé, puis il a des débordements émotionnels, on n'arrive pas à le gérer, il veut pas obéir, etc. » Et puis la réponse comportementale ne fonctionne pas, et bien souvent on va retrouver en fait un repérage traumatique dans l'histoire du jeune qui précédait son entrée en communauté, des troubles anxieux notamment. Je voudrais vraiment insister sur le fait que chez les victimes, en tout cas les victimes d'actes graves, la cohérence expressive globale, elle n'est pas là. Elle est peu congruente et ça va être tout le travail de l'accompagnement et de la cohérence de la thérapie d'aller vers une identité narrative. C'est un travail de très très longue haleine parce qu'effectivement, pour se protéger, ces personnes ont mis en place des mécanismes très très puissants qui les coupent de l'accès à eux-mêmes et de l'accès aussi à une relation d'attachement sécure à quelqu'un d'autre. Alors je suis un petit peu longue, je suis désolée parce que c'est absolument passionnant tout ce qui se passe en psychologie actuellement sur ces questions. En tout cas pour vous dire que l'expérience montre, il me semble à travers toutes ces nouvelles pratiques thérapeutiques fondées en tout cas sur la neurobiologie énormément, du cerveau, qu'on peut retrouver l'idée de la bonté originaire, en fait. Et qu'on peut aussi diffuser par le cadre thérapeutique une culture du pardon, de la transmission du pardon, qui peut être résumée à l'attachement sécure à un autre être humain. Voilà, je m'arrête là.
Merci beaucoup, Lorraine. Je crois que plusieurs autres questions sont arrivées. Posé par écrit. Du coup, on va peut-être passer la parole à Fumi pour nous en donner un écho et qu'elle puisse être ainsi soumise à nos intervenants ce soir.
Oui. La première question concerne la condition pour que le pardon soit un recours puissant pour les victimes. À quelles conditions pour qu'elle soit un recours. Aussi, je crois que c'est une question plutôt une demande de précision à Lorraine Angenot. Quel est l'intérêt du pardon pour la victime dans le passage de la mémoire traumatique à la mémoire épisodique? Et puis, d'autres questions que j'évoquerai, c'est le rapport entre la victime et la communauté, et notamment lorsque la victime elle est donc l'objet de l'exclusion de la communauté. Lorsqu'elle est victime de la part de la communauté d'un traumatisme qui soit de l'ordre de l'exclusion. Et puis ensuite. Vous avez évoqué le visage du pardon. Et du coup, le rapport entre le visage de pardon et puis la révélation ou bien la découverte du visage de Dieu. En fait, le visage de pardon ne suggère-t-il pas cette révélation à l'apparition d'une bonté originaire lors de l'expérience de pardon par la victime et l'agresseur coupable? Et dernière question, c'est de par rapport à la recherche à suivre. Quelle instance pourrait être lieu de recherche, formation sur la culture de réconciliation, sur les pratiques sociales thérapeutiques? Et le centre OCR pourrait être un lieu pour cela, pour diffuser une culture de la réconciliation.
Merci Fumi, merci pour vos questions. Je vais apporter quelques éléments et puis ensuite, si Clarisse, Michel ou Lorraine, vous voulez compléter, allez-y. Tout d'abord, à quelles conditions le pardon peut-il être un recours puissant pour les victimes? C'est effectivement une question très importante et je crois que ça rejoint tout ce qu'on dit justement sur la culture, culture du pardon, culture de la réconciliation. Je dirais qu'il y a au moins deux éléments à prendre en compte, c'est les recours internes, c'est-à-dire une personne qui a été qui a reçu ses apports, qui se les est appropriés, par exemple dans une culture religieuse, mais pas seulement. Et puis, il y a les apports externes. C'est-à-dire que la personne est dans un environnement dans lequel elle peut être prise en charge très vite. Et je pense qu'il y a ces deux éléments qui sont complémentaires. Si je pense à la justice reconstructive, on trouve ces deux éléments, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une culture, c'est-à-dire les personnes qui sont victimes, et ça c'est en train de se propager beaucoup dans le monde, y compris en France, la prise de parole des victimes encourage les autres à prendre la parole et ça fait boule de neige d'une certaine manière. Alors après, évidemment, il y a des excès, hein, c'est bien normal, mais en tout cas ça amène une culture dans laquelle on découvre que il y a des choses qui sont criminelles et que voilà, dans la prise les éléments extérieurs, il y a des structures dans lesquelles une personne victime peut être prise en charge rapidement. Alors ça peut être le cabinet d'un psychothérapeute ou des structures plus larges, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a besoin de ces structures. Sans ces structures, on est très démunis. On est très démunis. Les victimes restent avec leur trauma, et voilà. Alors, elles peuvent tomber avec, si elles ont beaucoup, beaucoup de chance, sur une personne qui saura suffisamment les écouter et qui, un peu en tâtonnant, va arriver à faire quelque chose, mais c'est pas sûr. Et là, je crois beaucoup, par exemple, à la complémentarité entre le travail psychologique, philosophique, spirituel, théologique, pour amener le maximum d'éléments, pour effectivement que toutes les chances soient données aux victimes pour pouvoir vivre cette expérience de relèvement ou, comme disait Lorraine, de retrouver un attachement sécur. Voilà, donc ça c'est quelques éléments sur cette première question. Il y avait une question sur le visage du pardon et Dieu, la révélation, enfin le pardon qui est une révélation. Alors oui, tout à fait, je crois vraiment que le pardon, la miséricorde est au cœur de la révélation chrétienne, mais plus largement. Mais pas seulement. En faisant le voyage dans d'autres cultures, et des cultures très loin du christianisme, cette je ne sais pas comment on peut dire, conviction, foi en une bonté originelle de l'humanité qu'on peut réactiver est présente. Alors, on pourrait dire que comme chrétien, le Christ nous a révélé que là, c'est précisément le visage de Dieu qui se manifeste là. La plus haute hauteur du pardon, comme Ricoeur dit en reprenant 1 Corinthiens 13, en commentant 1 Corinthiens 13. Voilà. Donc oui, une révélation et que nous avons, comme chrétiens, la mission d'annoncer et aussi de reconnaître quand elle se présente dans d'autres cultures. Troisième élément, le Centre Sèvres comme un lieu de recherche sur cette question-là, oui, ça commence un petit peu par ce séminaire de recherche. Ça pourrait s'élargir puisqu'il y a aussi un certain nombre de formations qui sont proposées autour de la question des abus qui pourraient se raccrocher à ça. À travers ce que disait Michel Fénoux tout à l'heure sur le rapport entre les églises, on pourrait imaginer de rapprocher sur ce point-là du travail de réconciliation, des travaux sur le pardon, des travaux qui se font en œcuménisme, par exemple. Et plus largement, il y aura au mois de mai un grand colloque qui va se tenir à Madrid, qui rassemblera l'ensemble des institutions jésuites dans le monde qui œuvrent à la réconciliation, pour précisément faire un peu un état des lieux de la contribution des jésuites à travers les institutions dans lesquelles ils sont engagés, en collaboration avec un très grand nombre d'autres personnes. Comment est-ce que cette mission est portée? Et en retour, ça nous donnera, je crois, j'espère, un élan dans cette direction-là. Voilà quelques éléments. Mais si vous voulez compléter, et peut-être j'ai oublié une question, mais je ne sais pas. Michel, oui.
Je viens de dire deux brèves remarques. Tout d'abord, par rapport à la question le pardon comme un recours puissant pour les victimes, Guillaume a donné un éclairage, je trouve, précieux par rapport à cette question. Ce que j'ai envie d'ajouter, ce que ça ressort vraiment de son livre, c'est la dimension du temps, de la temporalité. Il ne faudrait surtout pas avoir l'impression que le pardon est facile. Enfin, voilà, Guillaume emploie très souvent dans son livre les termes de chemin, d'un travail, du pardon. Enfin, voilà, donc on peut souhaiter, on doit espérer qu'effectivement le pardon soit un recours puissant, mais ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est une petite précision que je voulais apporter, cette dimension de la temporalité qui est vraiment à prendre en compte, le labeur qu'implique le travail du pardon. Hein. Et puis ma deuxième petite remarque, c'est à propos de la question sur le visage du pardon. Enfin, dans la même ligne que ce que disait Guillaume un moment, je crois que la question peut être inversée. Évidemment, comme théologien, je suis assez sensible à l'autre, disons, à une manière de reprendre la question par l'autre bout, au lieu de demander le visage du pardon, peut-il être révélation du visage de Dieu? On peut aussi dire, on a de bonnes raisons, en tout cas du point de vue de la tradition chrétienne, de dire que, à l'inverse, c'est vraiment la révélation du pardon de Dieu, pleinement manifestée dans l'offrande du Christ jusqu'au bout, qui, tout à la fois, du même mouvement, révèle la profondeur abyssale du mal et, en même temps, la possibilité de pardonner, ou en tout cas, la possibilité de s'engager dans un chemin qui puisse conduire au pardon.
Voilà, mais peut-être que Clarisse ou Lorraine voudraient à nouveau prendre la parole pour revenir sur tel ou tel point qui a été évoqué, même si ce n'est pas d'ailleurs les questions qui ont été immédiatement soulevées.
Peut-être un tout petit point, sauf si Clarisse, tu voulais parler. Moi, je voudrais rajouter en tant que soignante à quel point nous sommes extrêmement prudents, ne serait-ce qu'avec le lexique qui entoure l'idée du pardon. C'est-à-dire que ce soir, nous en parlons comme d'une réalité qui semble réelle, évidente, en tout cas pour un grand nombre d'entre nous, ce qui n'est pas le cas des patients ni des victimes, et en aucun cas il ne faudrait tomber dans un usage prescriptif de la question du pardon en psychothérapie. Voilà, je crois que c'est important de souligner à quel point le pardon peut être un concept galvaudé, mal utilisé, mal pensé, mal proposé peut-être, et parfois très mal ritualisé aussi. C'est vraiment une réalité, en tout cas dans le champ de la psychologie, que le patient, la personne découvre progressivement par elle-même, avec laquelle d'ailleurs une réalité très profonde à laquelle elle peut se relier comme d'un besoin fondamental. Les patients parlent du pardon comme d'un besoin lorsqu'ils ont suffisamment cheminé durant de très longues années. Là aussi, je voudrais rappeler le caractère extrêmement difficile du pardon et son caractère parfois proportionnel. Moi, j'ai beaucoup de patients qui disent « Là, j'ai pardonné à 20%, à 50%, mais je ne pourrais jamais pardonner complètement. » Et là, on est dans un cadre de soins, on est dans un cadre à confessionnel, en fait. Et toute l'inconditionnalité du pardon qui est travaillée en philosophie et en théologie est une réalité dont peuvent s'approcher certains patients, mais au prix, j'allais dire, de deuil extrêmement important à faire dans leur vie relationnelle et dans leur représentation de ce que leur vie relationnelle aurait dû être. Voilà, mais Clarisse, sur la natalité, je pense que ce serait assez complémentaire, la natalité et le pardon, sur ce natalité, deuil et pardon.
Peut-être juste un point. Je trouve que le livre de Guillaume met très bien en valeur justement le pardon comme processus, comme travail. Donc je ne fais que aller dans le sens de la remarque de Michel et de Lorraine. Et ça, je trouve ça effectivement très appréciable. C'est ce qui rend l'ouvrage à la fois accessible et réaliste. Et du coup, j'en profite pour appuyer ce qu'a dit Michel tout à l'heure. Effectivement, c'est vraiment un livre de méditation dont chacun peut s'emparer pour nourrir son propre chemin. Et l'autre chose que je trouve remarquable, c'est que même si le point de vue que tu mets en avant est bien celui de la victime, à aucun moment dans le livre, tu ne sépares donc le chemin, le travail de pardon réalisé du point de vue donc du coupable ou de l'agresseur et du point de vue de la victime. Et je crois que l'enjeu, justement, c'est vraiment un travail de différenciation là où il y a eu confusion, et également ce que Lorraine, en termes psychothérapeutiques, appelle le travail de réassociation, ou en tout cas pour retrouver effectivement une intégrité du psychisme, et donc la valeur justement de l'accompagnateur pour étayer la subjectivité donc de la personne agressée pendant toute la période du processus. Donc tout cela est très bien rendu dans ton livre, qui est vraiment un ouvrage de méditation pour toute personne qui est en travail sur ces questions. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Clarisse. Eh bien, peut-être, Guillaume, si tu veux reprendre la parole pour un petit mot de conclusion finale.
Oui, je vais simplement exprimer ma gratitude à nouveau à Lorraine, Clarisse et Michel pour votre lecture, pour vos questions, pour cet échange. À Étienne aussi pour l'animation de cette soirée, à vous tous qui avez posé toutes ces questions. Et puis j'aurais une pensée particulière pour depuis toutes ces années, toutes les personnes qui m'ont fait parvenir leurs témoignages, des témoignages de pardon qui ont pu aboutir du côté victime ou du côté agresseur, ou pas d'ailleurs, qui sont encore en chemin, en travail, qui sont en recherche. Voilà, c'est grâce à eux aussi que ce travail avance. Merci beaucoup.
Voilà, mais un très très grand merci à tous nos intervenants de ce soir, à tous ceux aussi qui ont posé les questions, et à vous tous, auditeurs, auditrices, qui avez participé à cette soirée. Voilà, et bien, à bientôt, j'espère, pour d'autres soirées, d'autres conférences au Centre Sèvres. Et puis, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Voilà.
Bonne soirée.
Merci beaucoup.